Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, faire le tour de l'actualité des différentes radios juives partenaires. Alors cette semaine, une actualité très chargée avec les attentats en Israël et la situation en Ukraine. Elsa Charby de RJM, vous êtes actuellement en Israël.
Oui, absolument. Je suis tout près de Tel Aviv et c'est vrai que l'actualité, malheureusement, est très chargée en Israël avec tous ces attentats qui ont fait plus de morts que les roquettes lors de la dernière intervention.
Quant à vous, Rudy Saada, vous êtes en Pologne, à la frontière ukrainienne. Bonjour.
Oui, bonjour. J'accompagne effectivement une délégation de l'UEJF qui elle-même accompagne un camion humanitaire parti de France avec des médicaments qui vont arriver à la frontière et avec l'espoir justement de faire parvenir ce matériel au-delà de la frontière, c'est-à-dire à l'intérieur même de la frontière ukrainienne, enfin du territoire ukrainien.
Et nous sommes aussi avec vous, Sandrine Seban, à Paris. Bonjour.
Bonjour, Margot. Écoutez, on va laisser un peu plus de temps, évidemment, à Rudy et à Elsa ce matin. Et c'est vrai que c'était important pour RCJ que l'un, et en l'occurrence le directeur de la rédaction, parte sur place pour vous raconter ce qui s'y passe. On a consacré beaucoup, beaucoup d'émissions. On va continuer, évidemment, à ce qui se passe en Ukraine. Rudy est le seul journaliste des radios juive en France être sur place et vous allez pouvoir le suivre comme ça pendant 2-3 jours.
Alors on débute avec vous, Elsa Charbit, avec cette situation tendue en Israël.
Oui, la situation est tendue et vous savez, au-delà de tout ce qui se passe, on le sent, la population a retrouvé des réflexes malheureusement face à cette violence. Et hier, après l'attentat la veille à Bnei Brak, le lendemain matin, moi je suis tout près de Bnei Brak, les rues étaient quasi désertes. On retrouve, vous savez, ces ambiances très lourdes d'attaques terroristes qui peuvent, quand elles sont isolées, intervenir n'importe où. Et c'est vrai que personne ne pensait qu'un attentat puisse avoir lieu à Bnei Brak. Et ce matin encore, on est encore grogué de tout ce qui s'est passé. Un nouvel attentat a eu lieu. Cette fois-ci, c'est au Gouche Etzion que l'attentat a eu lieu dans un bus où un terroriste venu de Bethléem a attaqué avec un tournevis une personne dans le bus. Le jeune homme, le voyageur, a 28 ans. Il est blessé pour l'instant. Un blessé grave. Pour l'instant, il est entre les mains des médecins à l'hôpital. Et du coup, bien sûr, il y a des opérations qui sont menées. Il était originaire de Jenin. De Bethléem, excusez-moi. Mais il y a eu des interventions tout de suite à Jenin. Une opération des terroristes dans les camps de réfugiés ont été neutralisés. Voilà. Et c'est vrai que cette ambiance est d'autant plus dure parce qu'aujourd'hui a lieu aussi l'enterrement des morts de Bnei Brak. Alors, vous le savez, il y avait deux Ukrainiens parmi les personnes blessées. Il y avait aussi un arabe israélien qui a été extrêmement courageux. Et puis, deux religieux, bien sûr, juifs, dont un rabbin. Et l'enterrement a lieu aujourd'hui. Tout cela est très lourd. Parce qu'on sait très bien que c'est les mouvements islamistes armés du Hamas qui est à l'origine de tout ça. Et d'ailleurs, ils se sont félicités de ce qui se passait aujourd'hui comme attentat en Israël. Alors certes, le président palestinien a condamné les choses, mais c'est vrai que tout ça est lié à la mouvance djihadiste et l'inquiétude est terrible parce que ce sont des attaques qui sont faites de façon individuelle et c'est beaucoup plus difficile, même si les renseignements, le gouvernement, la police, tout le monde est sur les dents, c'est beaucoup plus difficile à localiser et à pouvoir anticiper, même si on sait que certains des attentats ont été déjoués déjà. Mais c'est ça qui fait qu'il y a une tension terrible en Israël.
Sandrine Seban, vous souhaitez réagir?
C'est vrai ce que dit Elsa, et parfois quand on arrive en Israël, nous qui ne vivons pas là-bas cette peur au quotidien, on s'en rend compte tout de suite. Elsa, il suffit parfois de rentrer dans un taxi, d'entendre l'ambiance particulière chez nos confrères israéliens à la radio, entre les infos, les musiques tristes. On sent tout de suite effectivement que quel que soit l'endroit du pays qui est frappé, qui est touché, et là j'entendais l'analyse ce matin chez vous Margot de notre correspondant sur place, Gérard Benamou, qui était très juste, qui expliquait pourquoi c'était telle et telle ville qui avait été touchée. On pourrait croire que c'est dû au hasard, et non, il expliquait très clairement pourquoi c'était le cas. Et ce qu'on ressent en Israël à chaque fois, effectivement, Elsa et vous qui êtes sur place et qui, je le sais, avez de la famille sur place, on ressent qu'à chaque fois, eh bien, c'est une peur qui à la fois envahit tout le pays et en même temps, et vous allez nous le confirmer, Elsa, la vie est normale en Israël, c'est-à-dire que les gens envoient leurs enfants à l'école, ils vont faire les courses, etc., comme d'habitude.
Pour vous dire, hier, il y a eu un moment de flottement. Certes, dans les écoles, il y a eu des SMS qui ont été envoyés aux familles, enfin, sur des groupes WhatsApp, vous savez, qu'on toutes les écoles pour dire on va à l'école, on n'y va pas, vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, tout le monde a voulu être rassurant. Il y a toujours une journée un peu difficile. Hier, les rues étaient pratiquement désertes, je vous promets. Hein. Moi, je suis à Kiryat un souffle de Bnei Brak. Aujourd'hui, ça y est, la vie a repris. Heureusement, c'est un, vraiment le peuple israélien, cette faculté à se dire non, on ne va pas leur donner raison. Il faut qu'on continue à vivre et c'est véritablement ce qui se passe. Mais la tension est là. Et puis, vous savez, depuis, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je suis là, quand vous rentrez dans un parking, dans un supermarché, on vous ouvre la malle pour regarder, bien sûr. Mmh. Mais on plus partout dans tous les centres votre sac comme on le faisait autrefois et ça m'a surprise et je pense qu'il faut qu'on revienne à tout cela et le gouvernement en est tout à fait conscient, il faut quand même revenir à une surveillance stricte comme Israël sait si bien le faire et partout. Je crois que la vigilance elle doit être dans chaque petit village, dans chaque ville, dans chaque centre commercial.
Rudy Saada, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, bah, tout simplement que c'est la tranquillité des Israéliens qui est visée. Et effectivement, le fait que ce soit trois villes très différentes du pays, il y a bien un message, hein, c'est de dire que les Israéliens ne sont pas et ne doivent pas être tranquilles. Face à ça, effectivement, il y a le fait de continuer à vivre normalement, qui est une des grandes forces des Israéliens. C'est après un attentat tout de suite que la vie reprenne pour montrer que, évidemment, ces attentats ne change pas le mode de vie des Israéliens. Cela est très important. Cela dit, comme l'a très justement dit Elsa, il y a effectivement une tension, un flottement, et puis la crainte de revenir à ce rythme de la deuxième intifada où les attentats étaient quasi quotidiens.
Et on reste avec vous, Rudy Saada, qui vous trouvez donc actuellement en Pologne, à la frontière ukrainienne.
Oui, absolument. Nous allons donc réceptionner ce camion parti depuis la France, depuis Noisy-le-Grand, chargé de médicaments. C'est le sixième camion qui est envoyé par les instituteurs de l'UEGF avec le soutien du Fonds social juif unifié. Et l'idée, en fait, de venir sur place, c'est aussi de vérifier la manière dont ces dons sont redistribués aux uns et aux autres, comment les ONG travaillent. Alors voilà, nous étions hier à Varsovie, qui est quand même une des plaques tournantes de l'accueil des réfugiés. Il y a près de la moitié des 4 millions de réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en Pologne et notamment à Varsovie. Et les communautés juives sont extrêmement mobilisées dans différents hôtels qu'on a pu visiter hier avec des gens qui sont soit en transit vers Israël, soit en attente dans l'espoir finalement de retrouver leur maison en Ukraine d'ici la fin du conflit, il y a prochainement. Et puis ceux et celles qui vont continuer, reconstruire une vie en Europe et notamment en France, qui sont accueillis en France par le Fonds social juif unifié. Donc voilà, ce que j'ai vu à Varsovie, c'est une très grande solidarité. Il y a énormément de drapeaux pour donner qui sont côte à côte avec les drapeaux ukrainiens. Il y a des messages de soutien partout, dans les cafés, en disant que voilà, que toutes les tables sont ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Voilà. Alors après, on a discuté avec beaucoup de monde sur place, notamment des représentants de l'ambassade de France, qui disaient qu'on était rentré dans finalement une deuxième phase. Les réfugiés étaient moins nombreux à passer la frontière. Le gros du flux a été aspiré, mais maintenant, il faut faire attention à plein de choses. Il faut faire attention, par exemple, au trafic d'êtres humains. Il faut faire... Voilà, il y a beaucoup de gens pas forcément bienveillants à la frontière. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est de savoir comment gérer maintenant ces 4 millions de personnes qui sont arrivées en Europe, les 2 millions qui sont ici en Pologne, comment les accueillir, les aiguiller. Et en ça, vraiment, les petites communautés juives de Cracovie, de Varsovie, sont extrêmement mobilisées, comme d'ailleurs, il faut le dire, l'ensemble des Polonais, beaucoup de gens.
C'est la question que j'allais vous poser, oui, Rudy, c'est la question que j'allais vous poser. Quelle était la réaction à la fois, alors vous êtes en Pologne, des Polonais et des autres habitants des pays limitrophes pour qui, effectivement, la vie a été complètement bousculée? Est-ce qu'ils sont extrêmement solidaires ou est-ce que, comme parfois, la solidarité était présente au début et commence à s'atténuer aujourd'hui?
Non, je crois que la solidarité est toujours là. Il y a toujours des gens qui viennent à la frontière en disant « je peux accueillir tant ou tant de personnes chez moi pendant un certain temps ». Donc voilà, après, vraiment le problème est le savoir-faire et c'est avec les ONG interviennent. C'est comment les accueillir dans de bonnes conditions. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc tout ça est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a l'élan de solidarité qui est humain et qui est vraiment très fort. Il faut vraiment le dire. Les Polonais sont... sont extrêmement accueillants avec leurs voisins ukrainiens, extrêmement solidaires. Après, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc il faut un peu structurer tout ça. C'est un peu l'enjeu après un mois de conflit.
Alors, ce qui est vrai, Rudy, les chiffres que vous donnez sont absolument délirants. On s'en rend compte, nous, ici, à Paris, avec les équipes du Fonds social juif unifié qui coordonnent l'action pour les réfugiés juifs qui arrivent et qui envoient donc, et vous êtes bien placé là pour savoir, parce que vous êtes avec eux, les camions d'aide humanitaire. C'est toute une infrastructure à mettre en place après quand une famille arrive. C'est pas seulement les loger, même si c'est l'essentiel, c'est les rassurer, c'est les papiers, c'est l'inscription à l'école pour les enfants, c'est faire en sorte qu'ils aient droit justement à leurs droits. Enfin, c'est beaucoup d'éléments à mettre en place et c'est une formidable chaîne de solidarité effectivement européenne qui s'est mise en place pour les aider. Concrètement, là, Rudy, je sais que vous êtes dans la voiture, hein, vous continuez de rouler, vous allez vers où ?
Alors, nous allons vers une bibliothèque solidaire.
Il y en a là-bas aussi, donc, c'est fou.
Voilà, qui est au sud de la Pologne, pas très loin de la frontière, là où, alors évidemment, il y a donc... Parce que c'est vrai que c'est aussi important cet aspect, on va dire, de vie normale, hein, redonner une vie normale à ces gens, leur redonner des repères. Et donc, nous allons là à la rencontre de réfugiés avec l'idée aussi donc de suivre le camion à l'intérieur même de l'Ukraine, rentrer un petit peu dans les frontières de l'Ukraine. On sait que l'Ouest est pour l'instant pas touché par la guerre, donc c'est une zone qui permet d'acheminer un peu d'aide, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans la frontière dans les frontières ukrainiennes, cela se complique évidemment.
Elsa Charbitz, vous souhaitez réagir aussi?
Je voulais juste ajouter quelque chose. Vous parliez du travail qui est fait par les équipes du FSJU, du Fonds social juif unifié, et dire justement que c'est une solidarité européenne qui se met en place. Et nous travaillons, enfin le FSJU travaille au national. Et aujourd'hui, à Marseille, ici dans le sud, se met aussi en place un appel de façon à pouvoir répertorier des hébergements, parce que évidemment, c'est quelque chose qui va durer. Et Paris ne peut pas, et sa grande banlieue, ne peut pas tout seul supporter ce poids-là d'hébergement des familles ukrainiennes. Et donc aujourd'hui, le Sud se met aussi en ordre de rang, FSJU, Casim, une opération pour aussi trouver des hébergements et que vous puissiez, de Paris aussi, envoyer des familles dans le Sud. Je pense que cela va ensuite se déployer dans toutes les grandes villes de France. Et c'est notre travail et notre devoir.
Exactement. Alors on a parlé d'attentats en Israël, de la situation en Ukraine. Comment est-ce qu'on gère de telles situations dans une radio comme RCJ, Sandrine Seban ?
D'abord avec une équipe formidable, avec Rudy qui est parti, ça s'est décidé très très vite. Hein. On a eu cette opportunité que l'un de nos journalistes puisse accompagner ce camion d'aide humanitaire. Donc ça s'est décidé en à peu près une heure, hein, Rudy, le temps pour lui de faire un sac et de vérifier le passeport. Mais tout bon journaliste a toujours un passeport normalement en état de validation, en cours de validation. C'est vrai, Margot, que le triptyque de RCJ, c'est culture, réflexion et engagement. Et l'engagement pour nous, ce n'est pas un mot ou faire des émissions, c'est aussi aller sur le terrain, c'est aussi aller en Israël quand la situation l'exige, c'est bien là pour la première fois effectivement, et Rudy Saada est le seul journaliste des radios juives en France à être sur place, c'est aller là-bas pour comprendre, pour expliquer, pour témoigner, pour faire notre travail. Et en même temps, c'est vrai que voilà, on n'est pas une radio comme une autre, on est une radio, on l'essaye au maximum à l'écoute de votre vie, c'est notre slogan, donc à l'écoute de la vie de nos auditeurs, mais aussi à l'écoute de tout ce qui fait dans le monde. Et c'est une évidence pour nous que quand il faut bouleverser complètement les programmes, eh bien nous le faisons. Nous l'avons fait juste avant votre journal avec une heure aussi spéciale avec des témoignages sur l'Ukraine. Israël, évidemment, avec tous les témoignages de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants ou parfois, voilà, d'Elsa qui, elle, est là-bas plus pour des raisons familiales. Voilà, pour nous, c'est une évidence et cet engagement, on va continuer à le retrouver à la fois sur le terrain européen et puis à la fois aussi parce que, et je vais conclure là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on est à 10 jours du premier tour des élections présidentielles et qu'il y a quand même une tendance extrêmement inquiétante, mais on aura l'occasion d'y revenir.
Mais juste dire, Sandrine, moi je voudrais remercier justement RCJ, je voudrais remercier Rudy, parce que comme nous travaillons en synergie, nous suivent, et nous, RJM, avec vous de façon tout à fait courante. C'est formidable parce que grâce à Rudy, nous tous, Radio JU, nous pouvons profiter de cela. Et moi, je vous en remercie parce que pour Radio JM, c'est un grand plus. Nous avons une équipe, bien sûr, moins importante que la vôtre. Donc, de pouvoir travailler ensemble, ça nous permet de récupérer tout cela. Donc, moi aussi, je voudrais vous remercier et remercier Rudy.
Et ben avec grand plaisir, Elsa. Merci. Rudy, à tout à l'heure. Faites attention à vous. Hein.
À tout à l'heure. Merci.
Merci à vous, c'est la fin de cette semaine des rédactions. Merci Elsa Charbit, Sandrine Seban et Rudy Saada. Et puis à la semaine prochaine. Vous écoutez RCJ dans un instant vos chroniques sciences humaines, droit et architecture.